Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce 11 décembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre magasinage du temps des fêtes se passe bien. Peut-être des parties de bureau aussi qui sont commencées. J'espère que vous avez de la santé aussi, pas une petite grippe qui commence comme c'est le cas pour moi ce matin. Mais bon, pour vous accompagner à travers tout ça, ben aujourd'hui, on a un balado qui est quand même assez rempli. Merci. On va avoir trois invités différents, plusieurs sujets à l'émission aujourd'hui. Jean-François Chaumont va venir nous parler de sa virée new-yorkaise. Je peux vous dire, il a parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes. On va parler de tout ça. On va parler de ce qui se passe chez les Rangers ou... Disons là, peut-être un peu à la pause du temps des fêtes parce que ça va pas très bien du côté des Rangers. Guillaume Lepage va être avec nous aussi, parler du camp d'équipe Canada qui a commencé hier, à vrai dire, hier soir, qui se poursuit pour les prochains jours. Donc, on va parler des principaux enjeux pour le camp d'équipe Canada en vue du championnat mondial junior. Et Hugues Marcille va être avec moi aujourd'hui. On va faire un tour de ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal et dans l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, ben sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute qui peuvent exister ou à peu près. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Suivez-nous aussi à Apple, Spotify, YouTube aussi, on est sur YouTube maintenant. Suivez-nous, comme ça vous êtes certain de ne jamais rater un balado. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va avoir un spécial championnat mondial junior. Donc, on va pouvoir parler de tout ça avec nos spécialistes. Vous préparez pour ce qui est toujours le grand party du temps des fêtes pour les amateurs de hockey. On lance l'émission, on vient tout juste, presque tout juste d'arriver à l'aéroport de Dorval, Pierre-Elliott Trudeau.
Mirabel, c'est dans les années 80,
oui, ça. Oui, c'est ça exactement. Yule pour les intimes, JF Chaumont qui est revenu hier tard après une virée new-yorkaise de quelques jours. Comment tu vas, JF?
Très bien, mais je crois que j'ai ramené dans mes valises petite grippe, beaucoup de transports en commun à New York, beaucoup de trains entre Newark et Manhattan. Beaucoup de monde dans le train, donc ce matin, voix PS Tendresse.
Ce qui est le fun, on a notre party de bureau ce soir. Toi puis moi, on est à égalité, on va donner ça à tout le monde. On espère que les gens du bureau n'écoutent pas le balado au moment où il va être mis en ligne, parce qu'il y en a 3-4 qui vont déclarer forfait. Mais plus sérieusement, JF, écoute, t'es allé à New York puis t'as passé à gratte. Quand on dit se retrouver à bonne place au bon moment, ça a été ton cas. T'avais déjà un carnet de visites assez long, mais t'es arrivé dans une marmite qui est assez bouillante. Merci. À New York, les Rangers qui viennent de perdre 8 de leurs 10 derniers matchs. C'est incroyable. On se réveille un matin, là, JF, puis les Rangers, au point, purement au point, sont hors des séries éliminatoires. On n'avait pas ça, personne, dans nos prévisions au début de l'année. Est-ce que ça commençait à sentir la panique pendant les quelques journées que tu as été là? Quoi, t'as fait quoi? 3-4 matchs? Là?
4 jours du côté de New York. J'ai couvert 3 matchs des Rangers, 1 match des Devils, quelques entraînements matinaux aussi des Devils et des Rangers. Écoute, la journée de mon arrivée, c'est la journée Jacob Trouba. Donc, échange du capitaine, Trouba qui part du côté d'Anaheim. Avec même peut-être petite menace, là, on ne savait pas si Trouba pouvait se ramasser au balotage ou s'il était pour être échangé. Quelques heures plus tard, la signature à long terme d'Igor Shesterkin, qui a été confirmée toutefois 2 jours après, je crois, le Shesterkin, prolongation de contrat de 8 ans, 11,5 millions. Puis bon, on se disait au premier match, sans Trouba, les Rangers réussissent à battre les Pingouins. OK, peut-être une bouffée d'air frais. On se relance. Ça restait quand même une espèce de bobo ou un nuage noir qui planait au-dessus de l'équipe là, depuis plusieurs semaines. Chris Drury, des rumeurs mentionnaient que les Rangers cherchaient à échanger Jacob Trouba depuis cet été, n'avaient pas réussi peut-être à obtenir le prix qu'ils désiraient. Donc Trouba ouvre la saison à New York. Dans un marché comme New York, comme Montréal, comme Toronto, si tu sais que ton capitaine veut ou va partir, ou que l'équipe désire plutôt échanger le capitaine, ça devient une situation problématique.
On se souviendra d'un grossé au tournoi de golf des Canadiens.
Oui, avec Max Pacioretty. Mais Pacioretty avait été échangé à minuit, juste avant le tournoi de golf. Donc, quand même, Marc Bergevin avait réglé ce dossier-là devienne une trop grosse balloune. Puis bon, Trouba part.
Ça aurait été plus malaisant que ton jeu de golf le lendemain s'il avait été là
Ah ouais,
au
mais
tournoi.
juste il y avait eu un tournoi de golf festival. Je crois que c'était le tournoi de Dominique Ducharme.
C'était le tournoi du capitaine, ça se peut-tu?
Oh, le tournoi du capitaine,
ouais,
pour la fondation quelconque. Il y avait tellement eu un malaise, la poignée de main entre Bergevin et Max Pacioretty qui avait été prise par plusieurs caméras. Mais bon, il y avait peut-être le même type de malaise du côté de New York. Trouba part. Comme je disais, une victoire contre les Pingouins, mais ensuite, deux défaites. 7-5 contre le Kraken de Seattle, 2-1 contre les Blackhawks de Chicago. Les Rangers, tu faisais bien de le mentionner, en ce moment ne seraient pas dans le portrait des séries. Ça va pas bien du côté de New York. Les collègues new-yorkais parlent d'une équipe qui manque de motivation, qui manque de cœur, manque de désir. C'est beaucoup, beaucoup de revirements aussi. Le jeu défensif s'écroche. Igor Shesterkin n'était pas en poste contre le Kraken. Sa femme avait donné naissance à un deuxième enfant. C'est Jonathan Quick qui jouait.
Grosse
mais honnêtement,
semaine, pareil, hein?
Ouais, grosse semaine pour le Igor.
On va en avoir assez payé les études, là, l'envoyer au cégep, oui. Son enfant, là, mais quand même, ouais. Il n'y a
pas de cégep du côté de New York, mais oui, il pourrait même aller du côté d'un cégep privé si jamais il veut.
Finir sa carrière à Montréal, il va pas trop vite.
Ouais, on verra. Mais écoute, c'est une drôle de situation. Est-ce que l'avenir de Peter Laviolette pourrait être remis en doute? On verra. Est-ce que les Rangers peuvent y aller d'un coup d'éclat avec une autre transaction dans les prochaines semaines? C'est pas impossible. Je pense que le statu quo est difficile à accepter en ce moment.
Ben, il l'a pas été avec l'échange de Trouba, même.
C'est encore du court terme. Voyons voir si les Rangers vont réussir à replacer la situation, si cette équipe va remonter au classement. Mais je ne reconnaissais pas la même équipe qu'on pouvait voir en série au cours des dernières saisons. Je croyais que les Rangers feraient partie des candidats sérieux pour aspirer à une finale de la Coupe Stanley, peut-être même gagner la finale de la Coupe Stanley. Et en ce moment, c'est absolument pas ça qu'on voit avec cette équipe.
Les Rangers, propriétaires, ont jamais été très, très reconnus pour leur patience. On salue Gérard Gallant qui a été congédié après deux saisons alors qu'il venait d'avoir une bonne saison, mais ça s'était terminé, souviens-toi, rapidement en première ronde contre les surprenants Devils. Là, je pense qu'ils avaient remonté de trois matchs là, ou deux matchs, je ne me souviens plus. Là, mais on peut parler de Jeff Gorton aussi, qui avait été dégommé en pleine reconstruction au profit de Chris Drury. C'est pas une équipe qui a tendance à être patiente, surtout, tu l'as dit, dans le marché new-yorkais ou de l'autre côté de la Hudson, tu as les Devils qui font très, très bien. T'en as parlé, mais oui, c'est ça. Le statu quo à court terme peut pas tenir. T'as parlé avec Alexis Lafrenière, c'est sûr que c'était un petit peu avant ça, mais comment on vit ça dans le vestiaire là, présentement chez les joueurs? Puis en plus, je pense à Lafrenière, Peter Laviolette, c'est un player's coach, a toujours été reconnu comme un player's coach. Chris Drury, directeur général, n'est pas tout à fait du même genre, là, à mon avis, là, du moins ce qu'on a vu est un peu plus la méthode dure. Laviolette s'accroche à ces vétérans qui l'ont mené loin, qui ont connu du succès. Lafrenière en est le premier à payer le prix en n'étant pas en avantage numérique. Tu parlais de statu quo. Lafrenière, est-ce que justement, lui, il ne va pas te dire « je veux jouer à l'avantage numérique puis je suis la clé ».
Non.
Mais on s'entend que ça doit le chicoter un peu de voir qu'il ne se fait pas placer dans des situations avantageuses quand il y en a d'autres qui le sont et qui ne livrent pas la marchandise.
Mais au moment de la rencontre avec Alexis Lafrenière, c'est au lendemain de la victoire contre les Pingouins. Donc, à ce moment-là, samedi dernier, on se disait « OK, l'équipe va se relancer ». Lafrenière se disait triste du départ de Jacob Trouba, un coéquipier qui était aimé, respecté, le capitaine de l'équipe. Lui disait qu'il avait connu une saison aussi à l'image des Rangers, c'est-à-dire des hauts et des bas, un bon départ, frapper le mur en même temps que l'équipe. Dernièrement, à 5 contre 5, Laviolette a probablement voulu faire plaisir à Panarin et Trocheck. Ils ont réuni le même trio avec Alexis Lafrenière. Mais défensivement, c'est assez difficile pour le trio de Trocheck, Panarin, Lafrenière. Et surtout, l'autre problème, Mika Zibanejad ne connaît pas une grande saison. Il est à moins 15 présentement, 20 points en 27 matchs. Le deuxième marqueur des Rangers, c'est Will Cooley, à 22 points, 10
Goulet.
Buts.
Ça se prononce comme Caden Goulet, mais avec un C au lieu d'un G.
J'ai tout le temps de la misère à le dire. Puis ouais, avec ma voix de gars qui a fumé un carton de cigarette ce matin, ça devient encore plus difficile. Mais tout ça pour dire qu'à part Panarin, qui roule comme le Panarin qu'on connaît, là, 34 points à 27 matchs, pratiquement tous les attaquants des Rangers sous-performent. On s'attendait à de meilleures statistiques pour Zibanejad, pour Trocheck. Lafrenière pouvait rêver à une première saison de 70 points. Elle me disait qu'il aimerait atteindre les 30 buts, aimerait atteindre le cap des 70. Est-ce qu'ils vont rester fidèles à leur entraîneur Peter Laviolette? On verra, mais juste en avantage numérique, tu en parlais, mais Laviolette s'entête à garder le même top 5, c'est-à-dire Adam Fox à la pointe, t'as Artemi Panarin, t'as Vincent Trocheck, Chris Kreider et Mika Zibanejad. Mais peut-être que tôt ou tard, on pourrait donner une sérieuse audition à Lafrenière, voir un élément nouveau au sein de cette formule-là pour peut-être aider les Rangers. Lafrenière est patient, il est toujours sur la deuxième unité, mais on... disons que les partisans commencent à être moins patients, là. Au dernier match, c'était assez frappant. Si on croit qu'il peut y avoir des huées bien nourries au Centre Bell, c'est pas toujours en douceur du côté de New York. Les dernières minutes contre Chicago, les dernières minutes contre Seattle, il y avait beaucoup, beaucoup de grogne à l'intérieur du Madison Square Garden.
C'est compréhensible. Je veux dire, t'es pas supposé d'avoir cette équipe-là de perdre contre les Blackhawks. Qui manquent cruellement de ressources, là, on s'entend. Ouais. Je regardais l'avantage numérique. Là, depuis trois semaines, les Rangers, on est 19e dans la Ligue avec ce qu'on a comme munitions sur cet avantage numérique-là.
Ben, c'est un avantage numérique qui devrait fourrouler 25-26%. C'est en théorie, il devrait avoir un des bons avantages numériques de la Ligue.
Certains même disaient que cette année, le meilleur trio de l'équipe, c'était Philippe Kittil, Capo Caco, puis Will Cooley. Donc, parce qu'au moins, il y avait de la stabilité, autant d'un côté comme de l'autre. On jouait bien défensivement, ce qui nous permettait de créer des chances d'attaque. C'est pas le discours, c'est pas ce qu'on est supposé d'attendre dans les analyses de New York.
Le trio de Kreider, Zibanejad et Riley Smith se cherchent. Riley Smith a même regardé un match des gradins. Écoute, Je tomberai pas en bas de ma chaise si jamais les Rangers y vont d'une transaction sans que ce soit la plus grosse des transactions, mais je crois qu'ils vont bouger encore une fois, même s'ils ont déjà fait un premier pas avec Jacob Trouba.
Même si l'effet Trouba là, ne donne rien. On a parlé brièvement des Blackhawks. Écoute, quand il est en ville, Connor Bedard se souvient lui jaser, lui glisser deux, trois mots, c'est ce que tu as fait. On parle souvent de la gang de la deuxième année pour les jeunes joueurs de la Ligue nationale de hockey. Dans son cas, 21 points, 28 rencontres, je pense que pour beaucoup de joueurs de deuxième année, ce serait somme toute satisfaisant. Pour un premier choix, avec tout ce qui accompagnait Connor Bedard, on s'attendait un petit peu plus. Mais as-tu l'impression que dans son cas, on parle plus d'une deuxième année d'apprentissage qu'une deuxième année, d'une gang de deuxième année?
Oui.
T'sais, ça presse pas chez les Blackhawks de le voir faire ça à point. Là.
Non, puis j'en parlais avec les collègues de Chicago, Mark Lazarus, qui couvre les Blackhawks sur une base quotidienne pour The Athletic, disait que Connor Bedard, cette année, est beaucoup plus complet. Joue mieux défensivement, est plus responsable, plus intelligent. Ça se traduit pas présentement sur la feuille de pointage, mais c'est Bedard et les attentes, elles peuvent tellement être élevées. On se disait, bon, mais à sa deuxième année, est-ce qu'il peut frôler déjà 100 points? C'est un phénomène, là. C'est dans la lignée des Crosby, des McDavid, des Austin Matthews, les talents rares. Il y a 21 points en 28 matchs. Connor Bedard est le premier à dire, bon, mais écoute, je vais me regarder dans le miroir. J'ai pas le sentiment que c'est catastrophique. Bedard sait qu'il apprend beaucoup de choses. Oui, tu le disais, c'est une saison d'apprentissage. Mais 21 points en 28 matchs, il est quand même au sommet des marqueurs du côté des Blackhawks. C'est une équipe qui ne marque pas de but. Le deuxième, c'est Ryan Donato à 15 points. Le troisième, c'est Tuevo Teräväinen à 13 points. Taylor Hall à 12 points. Bedard joue souvent avec Philippe Kourachev, qui a une saison très, très difficile. Tyler Bertuzzi a seulement 11 points. C'est une équipe qui n'a pas simplement reconstruit. Je pense qu'on doit plus parler d'une démolition. Dans le but d'obtenir le fameux premier choix, ils ont été chanceux, ils ont gagné à la loterie, ils ont obtenu Connor Bedard. Là, il y a l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Sorensen, entraîneur suédois. Les Hawks, honnêtement, ont joué un bon match du côté de New York, un bon match défensif, victoire de 2-1.
C'est comme ça qu'on va gagner de toute façon.
Oui, oui, ils vont resserrer le jeu, ça ne sera pas les performances les plus éclatantes. Je crois pas qu'il y a, dans l'entourage des Blackhawks, autant l'entraîneur que Taylor Hall, il n'y a pas d'inquiétude au niveau de Connor Bedard. On sait que les chiffres vont finir par suivre. 5 buts en 27 matchs, c'est pas beaucoup selon ses standards. Puis moi, la statistique qui m'a frappé le plus, c'est 15 fois dans 27 matchs, Bédard n'a pas écrit son nom sur la feuille de pointage. C'est plus qu'un match sur deux où il se fait blanchir, mais il reste encore plus de 50 matchs. Je serais pas surpris de voir le train là, prendre son air d'aller.
C'est pas tout à fait le même style de joueur, mais tu vois-tu une courbe de développement à la Nathan MacKinnon? Ça a été long, Nathan MacKinnon, avant qu'il commence à qu'il devienne le joueur qu'il est présentement, là.
C'est le lien que j'écrivais dans mon article. Nathan MacKinnon, c'était sa 10e saison qu'il a connu une première année de 100 points. Trois fois, il avait eu plus de 90 points, mais sa deuxième année, si ma mémoire est bonne, là, c'est un petit peu en bas de 40 points. Donc, MacKinnon a eu besoin de temps, a eu besoin d'encadrement. Est-ce que c'est la même chose pour Bédard? Bédard, c'est le type de joueur pour qui il a toujours traîné son équipe sur ses épaules, que ce soit les Pats de Regina ou l'équipe canadienne au Mondial Junior. C'était le moteur offensif vers qui on se tournait à toutes les fois. Peut-être aussi que de ne pas être invité pour la confrontation des quatre nations, ça peut piquer un petit peu son orgueil. Le talent est là.
Ou ça va leur centrer aussi.
Ouais,
il n'a pas à penser à ça cette année. Là.
Non. C'est un joueur de 19 ans.
C'est ça.
C'est un joueur de 19 ans qui s'en va quand même vers une saison là, de 60-70 points. On est loin de la catastrophe avec Connor Bedard. C'est juste que moi, je l'ai dans mon pool.
Oui, je le sais moi aussi.
Et d'une façon très égoïste, je pariais plus sur une très, très grosse saison. Mais on va attendre. Au dernier match, Connor Bédard jouait avec Ilya Mikheyev et Philippe Kourachev. Donc, Bédard a beau être le plus talentueux au monde, il n'a peut-être pas non plus les ailiers et les ressources nécessaires pour immédiatement prendre son envol dans la Ligue nationale.
Je passe d'un joueur suisse à un autre, de Kourachev et Nico Ishii. Tu es allé lui rendre visite du côté des Devils. C'est le texte qu'on peut lire ce matin sur lnh.com. Bon, les gens, si vous nous écoutez jeudi, vendredi, samedi, ça va être plus loin. Là. Faites une recherche. De toute façon, avec tout ce que tu as écrit, là, faites une recherche. Chaumont, vous allez trouver la gratte qui a passé JF. Mais Nico Ishii qui gagne et qui gagne en maturité, en expérience dans son jeu, qui est en train de devenir... J'essaie de trouver un comparable, un joueur fiable, productif, là, pas loin du point par match, mais Bergeron?
Oui, mon côté comparable, Bergeron, c'est un droitier, Ishii, c'est un gaucher, j'ai toujours de la misère à comparer.
C'est toi. Là,
mais non, mais écoute, c'est un joueur complet, c'est un centre qui est très intelligent, qui reçoit les missions défensives contre le meilleur trio de l'équipe adverse, mais qui réussit aussi à produire. Cette année, Nico Ishii, un Suisse, pourrait obtenir une première saison de 40 buts, 27 points en une trentaine de matchs cette saison, donc pas loin de 70 points aussi. Il y a deux ans, il avait terminé deuxième pour le Frank Selke qui avait été gagné par Patrice Bergeron. Mitch Marner avait fini troisième. Puis honnêtement, je serais pas surpris que Nico Ishii se retrouve encore une fois parmi les finalistes cette saison. Les Devils jouent très bien. Ishii est de toutes les actions. Puis ce que je trouve intéressant aussi, Sheldon Keefe, moi, ça m'a fait penser à Jonathan Toews, la façon qu'il le décrivait, comme quoi c'est un capitaine qui est dédié, c'est un capitaine qui est sérieux, c'est un joueur qui est calme, mais qui est à l'écoute de ses coéquipiers, qui est bon offensivement, qui est bon défensivement. Je voyais un peu une définition semblable à celle de Jonathan Toews. Ishii, lui, me disait que par rapport à son rôle de capitaine, bien, on lui a brodé un C sur son chandail alors qu'il était encore un tout jeune joueur, 21 ou 22 ans. Dans ce point-là. Maintenant, il a 5 ans d'expérience avec une aussi grosse lettre sur son chandail. Il se sent plus responsable, plus à l'aise dans les tâches de capitaine. Puis ça se voit. Puis moi, je trouve honnête, les Devils ont tellement un beau one-two punch au centre. Avec Ishii, qui est le joueur complet, puis Jack Hughes, qui est le cerveau offensif, que cette équipe-là peut faire un long bout de chemin en série.
Puis l'avantage aussi qu'on a en ayant Jack Hughes, c'est que peut-être qu'Ishii joue un peu moins à 5 contre 5, mais il est sur la première vague d'avantages numériques, puis sur la première vague de désavantages numériques. Tu l'as pour ses forces dans des situations différentes. Puis quitte à le faire jouer un petit peu moins à 5 contre 5, il lui reste des jambes. Tandis que tu parlais de Bergeron, tu parlais de Toews, David Krejci était très, très bon, tu sais, mais c'était clairement eux, les centres numéro 1, tandis que Jack Hughes, d'ici quelques années, s'il reste en santé, devrait avoir cette étiquette-là du côté des Devils.
Ouais, mais absolument.
T'as le one-two punch de toute façon, comme tu
puis,
dis.
Puis du côté des Blackhawks, Patrick Kane est un ailier, c'était pas un joueur de centre. C'est une équipe très talentueuse. Tu rajoutes un Timo Meier à cette formation. À la ligne bleue aussi, c'est intéressant avec Dougie Hamilton, Luke Hughes. Donc, les Devils, il y a beaucoup de talent. Faites un petit brin de jasette aussi avec Jonathan Kovacevic, qui est devenu un rouage hyper important de l'équipe de Sheldon Keefe.
Lui, là, il est heureux comme le... Heureux d'avoir été échangé cet été.
Oui, quand tu dis des fois qu'une transaction peut t'amener ailleurs dans une carrière, c'est le cas pour Kovacevic. Puis ce qui est le plus paradoxal, j'ai aimé les propos de Sheldon Keefe qui me disait en fin de semaine, au camp d'entraînement, on n'avait pas encerclé son nom dans le top 6 du côté du New Jersey. La blessure à Brett Pesce a ouvert la porte. Les Devils ont choisi de renvoyer Simon Nemec, un autre défenseur droitier qui est encore jeune, l'année de repêchage de Slavkovski. Nemec, ils l'ont retourné du côté de Utica. Ça rouvre la porte à Kovacevic, qui, lui, joue avec Jonas Siegenthaler, un autre Suisse, à 5 contre 5. Puis les deux sont souvent contre le meilleur trio de l'équipe adverse. Kovacevic, je pense, est à plus 13. Il a 10 points depuis le début de l'année. Il a vraiment trouvé sa niche du côté du New Jersey. Puis en parlant à des collègues à New York, il ne faudrait pas se surprendre si Tom Fitzgerald et Kovacevic en viennent à une entente pour une prolongation de contrat dans les prochains mois.
Il faut le donner à Tom Fitzgerald. Il a fait des acquisitions durant la saison morte, tu sais, payantes, pas des gros noms. Kovacevic, ouais. Je l'ai nommé Stephen Nosen, 22 points dans un match.
C'est un gars qui joue sur un top 6.
Va te mettre devant le filet en avantage numérique. Puis il faisait avec les Hurricanes de la Caroline.
Mais il y avait tellement de talent offensif du côté des Hurricanes qu'on le cachait un peu. Il a réussi peut-être à trouver des gars qui étaient dans une mauvaise chaise avec d'autres équipes pour leur offrir des rôles plus importants. Oui, coup de chapeau du côté de Tom Fitzgerald.
Oui, non, vraiment, il va falloir être... écoute, pas loin pour le titre de directeur général de l'année. Là, on regardera ça plus tard.
Puis il y en a un qu'on parle jamais aussi, là, mais Jesper Bratt.
c'est
38
le plus...
points en 31 matchs et c'est une bombe sur patin. Il est tellement rapide, Jesper Bratt. Dawson Mercer qui se retrouve sur un troisième trio. Il y a de la profondeur du côté des Devils.
Timo Meier, un autre Suisse en plus. Donc,
ouais.
C'est une
équipe assez complète.
C'est ça. Ils sont où on les voyait l'année dernière, puis ça avait pas fonctionné. Donc, c'est vraiment, ça avait été long, Meier, trouver son air d'aller. Je suis même pas sûr.
Oui, mais l'an dernier, il y avait eu des blessures aussi. Dougie Hamilton s'était blessé. On dirait que tout craquait au même moment. Ils ont obtenu aussi Jakob Markstrom qui vient changer le portrait devant le filet. Jake Allen, on a souvent parlé de Jake Allen à ce balado dans les dernières années, mais Jake Allen est un bon vétéran, c'est un joueur qui est important au sein d'un vestiaire, fait son petit travail du côté du New Jersey comme gardien numéro 2. Sheldon Keefe, disons qu'il a hérité d'un beau poste en partant de Toronto pour se retrouver à Newark.
Reste à faire le travail en séries éliminatoires. Ça, c'est,
ouais, une autre histoire.
Une autre paire de manches pour Sheldon Keefe. GF, on n'en a même pas parlé, puis je te laisse partir parce que je sais qu'il y a l'entraînement des Canadiens ce matin, là, mais tu as parlé à Samuel Girard aussi, tu as parlé à Shane Wright. Donc, allez lire ça sur le site de lnh.com. Girard, content de voir que ça va bien pour lui, connaît une bonne saison.
Oui, c'est un joueur qui se replace sur la glace, qui a eu des moments difficiles il y a un an en adhérant au programme d'aide des joueurs de la Ligue nationale. Belle histoire du côté de Sam Girard. Puis Shane Wright, bien, ceux qui aiment refaire les repêchages 5 ans, 10 ans plus tard pourraient s'amuser encore. Wright se replace drôlement avec le Kraken de Seattle. 9 points à ses 8 derniers matchs. Donc, c'est un joueur qui, tranquillement, pas vite, prend son envol.
Oui, exactement. Faites pas des redrafts comme ça l'année suivant le repêchage. C'est un peu inutile.
Personne n'a le même chemin non plus pour s'améliorer. Peut-être le gros plus pour Shane Wright, l'an dernier, jouait pour Dan Bysma du côté de Coachella Valley. Bysma est maintenant l'entraîneur-chef du côté du Kraken. Donc, ça peut être juste un petit changement. Un coach qui te fait confiance, en qui le joueur peut en donner plus. Donc, Wright, pour l'instant,
qui accepte les erreurs
qui accepte son rôle, qui accepte les erreurs. Donc, ça reste un beau projet, puis un joueur qui est tout jeune à 20 ans seulement.
Oui, exactement. JF, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. On se voit ce soir de toute façon pour célébrer la Noël, comme on dit.
Oui, boire de l'eau chaude avec du citron dans les prochaines minutes.
Oui, du miel aussi pour ta gorge, ça va t'aider.
C'est bon, à bientôt, Nick.
Hey, JF, bye.
Bye.
On poursuit l'émission en faisant un peu le tour de ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal et ce qui se passe aussi aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. Je l'accueille avec moi, vous le connaissez, Hugues Marcel. Salut Hugues.
Salut Nick, comment ça va?
Ah, bien toi?
Ça va très bien. Ouais,
très bien, très bien. Prêt pour les fêtes?
Oui, prêt pour les fêtes, la saison des fêtes qui s'en vient à grands pas. Par contre, moi, de mon côté, c'est toujours tranquille. Là. Je sais pas toi, Nick, là, mais nous, de mon bord, là, c'est pas des très gros parties.
Ben, moi, c'est du kilométrage quand même. J'ai tout le temps un bon 2 heures, 2 heures et demie à faire pour me rendre dans la belle famille que je salue. Donc, ça dépend tout le temps. Fait beau, pas de trouble. Fait pas beau, là, c'est plus de trouble. Là,
ouais, c'est ça, là. Surtout là, on n'a pas de route, puis c'est ça. C'est pas des parties qui veillent bien tard non plus. Donc,
non.
Surtout cette année, c'est le deuxième Noël avec mon gars, mais il y a quand même juste un an. Il vient d'avoir un an, donc
tout est dans la zone où tu sais que tu dormiras pas gros, donc t'es aussi bien de partir de bonne heure.
Ouais, mettons, c'est ça, exactement. C'est pas mal. C'est du déjà vécu pour toi, je suis convaincu.
Ouais. On s'entête.
Ah, vous aviez.
Ben, quand t'as autant de kilométrage à faire, t'as pas le choix de te coucher tard d'une manière ou d'une autre. C'est la différence. Donc, quand même, bien que tu te sauves à 11h30, il y a 2 heures de route à faire pareil. Donc,
tu vas
te coucher tard. Fait que tu te croises les doigts que le petit dort. C'est tout le monde qui va vivre ça dans les prochaines semaines, là, durant le temps des fêtes. S'il y en a un qui s'est réveillé, par exemple, qui connaît tout un réveil, c'est Patrick Laine chez les Canadiens de Montréal. L'effet Laine, on peut parler de ça, là, Hugues, parce que depuis ses débuts avec les Canadiens, 3 buts en 4 matchs, le jeu de puissance qui fonctionne à plein régime. Là, dans le cas des Canadiens, là, on est à 33,3% dans les 4 derniers matchs depuis l'arrivée de Laine. Enfin, on a l'impression qu'il se passe de quoi à Montréal. Tu penses-tu que cette étincelle-là, c'est assez pour juste donner une vague d'entrain à l'équipe là, présentement avec ce qu'on voit?
Ben, la vague d'entrain, je te dirais, Nick, qu'on la sent déjà. Je sais pas si tu as remarqué, mais chaque fois que Patrick Laine marque un but, c'est encore le cas lundi soir contre les Ducks, on dirait comme toute l'équipe a l'air tellement contente pour lui. Il y a un enthousiasme. Puis je me souviens, c'était son premier but, je pense, ou son deuxième. J'ai comme vu la scène, t'as comme Cole Caulfield qui le suivait.
C'est le premier but.
Cole Caulfield qui le suivait, puis il avait l'air les deux bras dans les airs, le gros sourire, qui avait l'air comme tellement content pour Patrick Laine. Donc, je vais te dire que oui, non seulement ça peut avoir un effet d'entrain, je te dirais que ça en a un présentement, un effet d'entrain.
Ouais,
on le sent.
Oui, on le sent. Les résultats, est-ce que les résultats vont venir? On verra bien là, quand même, là, tout de même là, dans les derniers matchs canadiens qui t'étais là lundi. C'est pas des grosses victoires. Tu sais, contre les Ducks lundi, 3-2 en tir de barrage, on aurait mérité un meilleur sort. À mon avis, on s'est écrasé pour prendre les paroles de Martin Saint-Louis, c'est vomi dessus samedi contre les Capitals de Washington quand on s'est laissé remonter. Mais écoute, si c'est pas de Logan Thompson, que j'avais sur Équipe Canada, je tiens à le mentionner, qui vraiment connaît un super match, c'est peut-être un résultat. Peut-être que les Canadiens auraient 4 victoires consécutives. C'est à mon avis ce qu'on méritait. Même si ce n'est pas des grandes victoires, 2-1 contre les Islanders, contre les Predators de Nashville, on a vraiment bien joué, mais les Predators de Nashville, disons-le, eux jouent très mal. Écoute, j'étais là au match, là, puis je veux dire, c'était une équipe qui n'a pas de saveur, qui n'est pas capable de rien construire en attaque. Mais somme toute, il y a de quoi là, qui se passe. Puis ça profite à l'aîné, ça profite au jeu de puissance. Profite de l'aîné de ça, entre autres aussi.
Oui, puis, tu sais, je veux dire, c'est certain que, bon, reprendre tes propos, c'est vrai qu'on s'est vomi dessus contre les Capitals.
C'est pas mes propos, c'est Martin Saint-Louis qui utilisait ça.
Mais tu sais, je reprends la semaine du Canadien. Je t'avais dit lundi matin, là, le 2 décembre, je t'ai dit, Nick, Canadien joue contre les Islanders, les Predators, les Capitals et les Ducks vont sortir la semaine avec 3, tu sais, vont sortir leurs 4 prochains matchs avec 3 victoires. Ben, tu m'aurais probablement dit, ils vont battre les Islanders, ils vont battre les Predators, puis ils vont battre les Ducks. Vont perdre contre les Capitals. C'est un peu la logique du classement, si on veut. Je veux dire, 3 victoires en 4 matchs, ça reste très bon pour les Canadiens.
C'était 3 adversaires battables en 4 matchs.
C'est
aussi,
ça. Les trois adversaires prenables, à mon sens, pour les Canadiens, c'était ces 3 équipes-là qu'ils ont vaincues. Donc, les Capitals, bon, c'est sûr qu'on aurait mérité, on aurait voulu gagner, on l'a échappé. Mais quand même, je veux dire, ça, sans faire de complaisance, je pense que c'est une bonne semaine pour les Canadiens. Défensivement, on accorde moins de buts. On a plus de... Bon, peut-être contre les Bruins dimanche dernier, mais on sent qu'on a moins de gros blow-out, là, de games qui finissent 8-2, puis tu sais, des défaites à sens unique. Donc, Canadiens est plus dans le coup défensivement. Et oui, t'as parlé de Lane Hudson qui, lundi, avec un point dans un 7e match de suite, a battu le record de Chris Chelios pour un défenseur. C'est un défenseur recru. Donc, vraiment, Lane Hudson qui est en train de prendre son envol. On sent que c'est un... On sent que ça va vraiment être un joueur d'impact pour les Canadiens dans les prochaines années. Ça l'est déjà, en fait, cette saison.
Je vais te poser une question. Matvei Michkov a récolté son 27e point en 27 matchs hier avec les Flyers de Philadelphie. C'était contre... J'ai un petit blanc, là, mais en tout cas, ben, c'est pas grave.
Hier, c'était contre Columbus.
Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Les 27 points de M. Michkov ou la saison 19 points en 28 matchs d'un défenseur comme Lane Hudson?
Ben écoute,
parce que là, on parle du trophée Calder. Je veux dire, moi, honnêtement, je n'avais pas Lane Hudson dans ma liste pré-saison pour le trophée Calder parce que il n'y avait pas le premier avantage numérique. Tout ça, mais là, je veux dire, il ne perdra pas le premier avantage numérique. Il touche la rondelle, c'est magique ce qui se passe un peu. Il y a tout le temps. Tu sais, le prix d'entrée, là, on disait dans le temps, Piqué-Souben vaut le prix d'entrée. Tu sais que quand il touche la rondelle, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une flamèche, il y a un petit feu qui... Le feu n'a jamais éteint complètement. Ça se pourrait que soudainement, il lance du gaz là-dessus et ça se rallume d'un coup. C'était ça, Piqué-Souben. C'est ça, Lane Hudson jusqu'à présent. Mais quand tu évalues ça présentement, Michkov ou Hudson, c'est qui est en avance selon toi?
Ben... Au début de la saison, moi, tu te souviens, on en avait parlé dans le podcast Pooler, dans le podcast de pré-saison. Matvei Michkov, j'ai toujours cru, toujours trouvé qu'il avait énormément de talent, puis je pense qu'il est en train de le prouver.
Il serait bon à Montréal. Hein?
Par contre, dans un repars pas là-dessus. Là.
Je t'arrête deux secondes.
Ouais, vas-y.
J'ai hâte que David Reinbauer vienne au jeu. Tout simplement pour qu'on puisse le voir. Pas pour
qu'on... Ouais, assurément.
Parce que là en bon français, là, c'est tout le temps lui, il est comparé à Michkov. Peut pas, entre guillemets, se défendre parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'il ferait. Il est blessé au genou. C'est une blessure importante. Ça va retarder son développement d'une saison au minimum. Mais ça se pourrait qu'il soit tout aussi bon, là, Reinbauer. Ça se pourrait.
Absolument.
Tu sais, je regarde le jeu de Caden Goulet présentement, puis tu me dis que c'est un deuxième Caden Goulet, ce à quoi à peu près on s'attendait, peut-être même un peu meilleur. Je serais pas déçu, mais Michkov joue en petit monsieur présentement.
Oui, Michkov, c'est ça. Par contre, moi, je pense que on dirait que quand il y a une lutte à deux, on dirait que quand il y a une lutte entre un attaquant et un défenseur au Trophée Calder, ou en tout cas au titre des recrues, puis là, peut-être un peu tôt pour parler du Trophée Calder, on y reviendra, mais on dirait que j'ai tout le temps tendance à pencher plus pour le défenseur, parce qu'à mon avis, c'est une position qui est plus difficile à jouer. Tu sais, Marc Bergevin, il disait souvent, quand un attaquant fait une erreur, c'est un revirement. Quand un défenseur fait une erreur, c'est une chance de marquer. Puis quand un gardien fait une erreur, c'est un but. Mais tu sais, quand un défenseur fait une erreur, c'est une chance de marquer. Les enjeux sont plus grands. Puis Lane Hudson, honnêtement, non seulement ce qu'il accomplit sur le plan offensif, c'est exceptionnel. Il s'enligne pourquoi une saison de 50-60 points. Puis là, maintenant qu'il y a la première vague du jeu de puissance, je pense que c'est très possible qu'il y arrive.
Avec l'aîné en plus.
Avec l'aîné qui est là aussi sur le jeu de puissance.
Il y a des cibles.
Il y a des cibles. Il est bien entouré offensivement. Le Canadien a des bons éléments quand même offensivement. Donc ça m'impressionne non seulement sur le plan offensif, mais défensivement, je trouve que tout ce qu'on entendait avant la saison sur Lane Hudson, c'est juste un joueur offensif, il ne sera pas capable de défendre dans la Ligue nationale. Je ne vois pas ça présentement. Je veux dire, il est moins 12 présentement, il est sur la glace souvent pour début de l'adversaire, mais c'est rarement de sa faute. Puis je trouve que c'est un défenseur qui est capable de défendre. Puis c'est pas, ça ne sera jamais un Caden Goulet, un gars qui va te ramasser dans la bande en entrée de zone. Il va te défendre un peu plus à sa façon. C'est dans sa façon, je trouve, de positionner son corps. Tu sais, des fois, sur des replis défensifs, en bataille avec un attaquant adverse, il va juste placer son corps pour que l'attaquant soit pas capable de prendre la rondelle.
La fluidité du coup de patin, vraiment. La fluidité du coup de patin pour isoler le porteur du disque. Là.
Exactement. Ouais. Il fait bien les choses, je trouve, défensivement. Donc ça m'impressionne vraiment. T'sais, versus un Michkov qui, en passant, Michkov est vraiment pas la catastrophe défensive annoncée avant. Il y a beaucoup de gens qui disaient que Michkov allait pas être impliqué. Je le trouve quand même très impliqué dans... Bon, c'est un attaquant, là, il veut marquer des buts, ça va être ça, son pain et son beurre. Mais c'est ça, je penche un peu plus pour Hudson présentement, pour le jeu plus complet, le fait que c'est un défenseur, que c'est une position plus difficile à jouer. Mais là, cela dit, la question, puis c'est à ça que je voulais revenir, c'est peut-être un peu tôt pour parler de Trophy Calder, dans le sens où on est juste au mois de décembre. Il y a un mois et demi de jouer, deux mois. Il y a souvent, on en parle souvent, mais les recrues, ça frappe un mur tout le temps en janvier, en février. Je vous le dis, la game, elle va changer. Là.
La deuxième année aussi, ça se continue là.
C'est... Fait que j'attends avant de me prononcer sur OK, oui, des gros chances sur le Trophy Calder, mais présentement, il est assurément pour moi dans les finalistes au Trophy Calder. Mettons que la saison prend fin là, aucun doute pour moi. Dernière chose que je vais ajouter, puis je te laisse la parole. Tassez pas tout de suite Macklin Celebrini de la course. Lui aussi est extrêmement impressionnant. Puis je pense que s'il n'avait pas raté les nombreux matchs qu'il a raté en début de saison, on en parlerait peut-être un peu plus. 16 points en 19 matchs, je le trouve exceptionnel, je le trouve vraiment bon. C'est un joueur complet, il a un impact offensif positif chez les Sharks. Il est comme un chien après un os sur la glace, je l'adore. Donc, c'est ça. Mais présentement, Hudson, assurément dans la course, aucun doute.
Moi, ce qui m'impressionne de Michkov, purement statistiquement, c'est le point par match. C'est un chiffre magique que tu veux atteindre en quelque part dans ta carrière, à ta première année. Puis en plus, tu as un John Tortorella qui, ça se passe bien jusqu'à présent. Il l'a laissé de côté pendant deux matchs jusqu'à présent cette saison. Puis comme tu dis, c'est pas la catastrophe défensive, Michkov, par rapport à ce à quoi on s'attendait. T'sais, on a beaucoup ri, on a beaucoup dit « Oh, ça va être la catastrophe, ces deux-là ensemble. » Peut-être que c'est exactement ce que ça lui prenait à Michkov pour connaître un bon début de carrière dans la Ligue nationale de hockey, pour assimiler les bonnes façons de faire, être responsable. Là, c'est à lui de garder ça parce que c'est des qualités qui se perdent, là, ça, on s'entend. Mais peut-être que John Tortorella, he's the guy, c'est le gars, c'est la personne que ça prenait à Matvey Michkov. Là.
C'est quoi, Nick? Puis on reviendra aux Canadiens. On s'éloigne, on s'en va un peu plus du côté de Matvey Michkov. Mais dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est en milieu du mois de novembre, début du mois de novembre, j'ai parlé avec Anthony Richard pour un article sur LNH.com qui, lui, venait d'être appelé, jouait son premier match avec les Flyers. Puis j'ai parlé de Tortorella, Anthony Richard. Puis lui, il me disait, Anthony Richard me disait, il est vraiment pas comme on pense avec les jeunes joueurs. C'est un entraîneur qui
strict
qui te pousse à te dépasser, puis il est pas intransigeant comme on pourrait le penser, puis les mettre dans la niche, comme on dit. C'est vraiment pas ça. En tout cas, Anthony Richard avait une expérience vraiment positive avec John Tortorella, puis j'ai l'impression que Matvey Michkov, c'est la même situation. Puis il a pas le choix, je veux dire, il en donne, Michkov. T'sais, il a 27 points en 27 matchs. Les Flyers sont quoi? Ils sont pas si loin d'une place en série présentement. Ils sont à quelques points de la deuxième. Ils sont dans le mix. Sont en deuxième place avec le quatrième match ce matin. Donc, t'as pas le choix de le faire jouer. Il te fait gagner présentement, Michkov. Donc,
Qui avait les Flyers dans la course aux séries éliminatoires l'année dernière? Qui les avait cette année? John Tortorella.
Non, on dira ce qu'on voudra, ces équipes performent.
Ces équipes performent. Qui est encore ça performait à Columbus, ça performait. Il y a juste à Vancouver que ça n'a pas fonctionné. La seule place où ça n'a pas donné des résultats. Et il y a une coupe cette année du côté de Tampa Bay.
Quand ça casse, ça casse solidement. Mais reste du temps, c'est on ne peut pas reprocher de ne pas faire fonctionner des équipes. C'est pour ça qu'il est dans la Ligue nationale depuis aussi longtemps.
Il reste aussi que regardez le nombre d'années qu'il reste avec un club. Il est là plus longtemps que la majorité des entraîneurs, que c'est quoi, c'est 2 ans et demi, 3 ans environ la moyenne.
Oui, faudrait faire le calcul, mais ça doit ressembler
Il reste là plus longtemps. Donc, tu sais, on dit oui, ça casse, mais ça pète un moment donné pour tous les entraîneurs, c'est pas nouveau. On reste chez les jeunes joueurs, Kirby Dach. Écoute, c'était pas le plus beau but de sa carrière, mais au moins c'est un but. Il en avait besoin, il avait pas marqué depuis 19 matchs. Ça a dû faire du bien, là, Hugues. Je sais que tu étais dans le vestiaire des Ducks après le match, là, mais avec Guillaume, j'imagine que vous en avez parlé un peu. Ouais. Ça a dû faire du bien un peu à Kirby Dach parce que là, il n'y avait absolument rien qui se passait dans son cas. Puis là, à un moment donné, c'est que c'est lourd sur les épaules, du négatif, du négatif, du négatif. On parlait d'étincelle tantôt. Là. Est-ce que ça, ça en est une titre là, pour au moins le relancer?
Ben, en tout cas, j'étais pas dans le vestiaire du Canadien, mais t'avais pas vraiment besoin d'être dans le vestiaire du Canadien pour le voir. Je sais pas si t'as remarqué sa réaction quand il a marqué, mais puis la réaction de Juraj Slafkovský qui est allé le voir, puis qui, tu sais, un peu comme tantôt on parlait de Caulfield avec Laine, Juraj Slafkovský avait tellement l'air content pour Kirby Dach, puis même Dach un peu comme, on le voyait dans son sourire là, c'était comme ah enfin, puis tu sais oui c'est un but. Un but chanceux, là, une crampe au cerveau de Dostal. Il a comme laissé la rondelle en arrière de son filet. À côté de Slafkovský, c'était servi sur un plateau d'argent. Mais tu sais, Martin Saint-Louis en parlait après le match.
Ça compense pour toutes les échappées depuis deux matchs que les Canadiens ratent. Là, ça fait du bien, là, ça. Là.
Cinq en deux matchs. Non, mais Martin Saint-Louis en parlait après le match, puis il disait que... Tu sais, ce qu'il disait, c'est que c'est un peu... Kirby Dach a un peu... Ce qu'il disait entre les lignes, c'est que Kirby Dach a un peu eu un match... à l'inverse des Canadiens. Lui a bien commencé le match, alors que les Canadiens ont mal commencé le match. Il a un petit peu moins bien terminé, alors que les Canadiens ont mieux terminé le match. Mais ce qu'il disait, c'est que tu sais, Kirby Dach a fait des bonnes choses en première période. Puis tu sais, à un moment donné, quand tu fais des bonnes choses, ben le fameux bounce, le bon chanceux, il arrive pour que tu marques. Puis c'est peut-être ça qui s'est passé. En fait, pas peut-être. Il a eu Dach, cette chance de marquer-là. Il a marqué. Maintenant, est-ce que ça va le relancer? Est-ce que c'est juste un blip sur le radar? Dur à dire. C'est tellement inconstant l'effort de Kirby Dach. C'est inconstant de match en match. C'est inconstant dans un match de période en période. Comme je l'ai dit, contre les Ducks, il a bien commencé. Une mauvaise finalité en fin de troisième période qui aurait pu coûter le match en temps réglementaire canadien. On a
survécu. Il y a une erreur aussi sur le but de Tortorelli.
Oui, c'est ça, exactement. T'as bien raison sur le but de Tortorelli, j'oubliais. Donc, tu sais, faut qu'il se mette en marche. Les Canadiens ont besoin de lui. Mais
on savait que ce serait long.
Oui,
je ne sais pas si je vois une progression depuis le début de la saison.
On savait que ça serait long peut-être pour livrer la marchandise sur le point de vue offensif, faire des points, mettre des points au tableau. Ça, moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Je pense que le problème avec Kirby Dach, c'est le manque d'effort tout simplement. C'est des jeux mous, là, comme sur le but à Troy Terry que tu parlais. C'est des jeux mous, des jeux qui coûtent cher à son équipe, qui donnent des chances de marquer, des revirements. Souvent, il n'est pas impliqué non plus en échec avant. Puis je me souviens, c'était quoi? C'était en 2023. Là, c'est parce que je perds le fil un peu des saisons et de ses blessures.
Ça s'appelle devenir vieux.
Mais c'était. Ouais, c'est ça. C'était en la saison 2022-2023, je pense. Dach avait joué une saison presque 50-60 matchs. Il était bon, Kirby Dach, c'était un attaquant qui s'impliquait en échec avant, qui créait des revirements parce qu'il allait le long de la rampe, soutirait des rondelles à l'adversaire. On ne voit pas vraiment ça de lui présentement. Donc, est-ce que ça va le relancer? J'ai vraiment hâte de voir. On ne peut pas dire ça parce que je ne suis pas prêt à m'avancer parce qu'il y a trop d'inconstance dans son cas. C'est des hauts et des bas, comme je disais, de match en match, de période en période. On peut juste souhaiter, par exemple, que ça va le relancer parce que le Canadien aurait vraiment besoin d'un Dach en santé s'il veut revenir dans le mix.
Et je ne suis pas certain qu'il est dans la bonne chaise présentement sur le deuxième trio pour se relancer. C'est peut-être, on l'a dit, le rythme n'est pas là, les réflexes ne sont pas là, pas joué depuis longtemps, l'effort n'est pas là, ça c'est d'autres choses, là, mais ça fait partie de tout ça. Mais l'absence d'un deuxième centre chez les Canadiens fait qu'il est dans cette chaise-là. Bon, là, il est avec Juraj Slafkovský, il est avec Laine.
Ben, est-ce que Laine peut... lui, le deuxième centre. C'est ça le plan, mais c'est pas exactement ça qui se passe.
Au même titre que le plan était Christian Vorak serait le deuxième centre éventuellement quand on a été le chercher. Mais ouais. Vorak, il est sur le troisième trio. En plus, c'est son trio avec Anderson et Gallagher. Somme toute...
Qui est le meilleur.
Mauvais,
ben moi, je vais le dire.
C'est ça.
Non, je vais le dire, c'est le meilleur trio du Canadien. C'est le trio. Peut-être pas, pas offensivement, là, mais je veux dire, en termes de constance, puis on se présente soir après soir, c'est le trio de Vorak avec Gallagher et Josh Anderson qui est le meilleur, je trouve, soir après soir. D'ailleurs, tu sais, Josh Anderson, pour tout ce qu'on a dit l'an dernier sur lui, les chiffres offensifs ne sont pas nécessairement au rendez-vous, mais. Il se donne sur la glace. T'sais, lundi soir, il était encore très visible. Puis, lundi soir, après deux périodes, là, c'était le trio de Dvorak avec Gallagher et, Et Anderson avait 7 des 15 tirs du Canadien là, après deux périodes. Donc, c'est encore le trio le plus constant de l'équipe. Tant
ouais, pas de doute. Les Penguins de Pittsburgh qui s'en viennent à Montréal demain, ça va un peu mieux. On achète du temps, on dirait, du côté des Penguins. 5-2-0 à leurs 7 derniers matchs. Hier, défaite par contre de 6-2 contre l'Avalanche du Colorado. L'offensive a débouché, mais aussi la défensive. Écoute, avant qu'on commence à se replacer là, avant cette séquence de 7 matchs-là, là, on marquait en moyenne 2,52 buts par match. On en donnait 3,96 depuis. Les Pingouins, écoute, on est pour les buts par match, 3,86. Donc, 1,3 buts de plus par match. C'est souvent la différence entre la défaite et aller chercher au minimum un point en prolongation. Puis 3,29 pour les buts contre. Ça allait mieux avant les 6 buts d'hier, là, soyons francs, là, contre l'Avalanche. C'était un peu mieux. Mais c'est ce qui est spécial, puis c'est moi qui couvre le match demain, là, donc je vais poser la question, mais c'est que l'attaque des Penguins ne vient pas des gros dons présentement. Depuis 7 matchs, Brian Rust a 8 points, Blake Lizotte 7 points, ensuite Eric Carlson, mais dans les gros noms, Sidney Crosby, 6 points, pas de but, Evgeny Malkin, 5 points en 7 matchs. T'es allé chercher Philippe Tomasino, écoute, je ne vais pas parler de qui a allumé cette équipe-là, mais...
Contribue, il a marqué des gros buts quand même.
Ben, je me dis que si au moins les gros noms en plus pouvaient mettre un petit peu plus d'épaule à la... C'est pas mauvais, 607, là, mais c'est pas... Quand tu regardes qu'il y a d'autres... En même temps, c'est ça que ça prend depuis longtemps chez les Penguins, c'est que ça soit les autres qui fassent le travail. Tristan Jarry aussi, ça s'est replacé un petit peu. Déjà là, quand ton gardien vient se placer, ça... je disais, encore là, le match d'hier vient tout de vient tout gâcher, là, parce que ça je pense qu'il y avait 917 de pourcentage d'arrêt, puis il était à 896 à matin. Là.
Mais tu sais, hier, en tout cas, je te laisse sursuivre, mais hier, McKinnon puis Rantanen qui décident que là, c'est assez, 5 points chaque, pas facile pour n'importe quel gardien.
On va y revenir sur l'Avalanche, ouais. D'ailleurs, là, parce que, écoute, on est en mode panique là, du côté de l'Avalanche, là, donc cette victoire-là va faire du bien. Mais justement, en se réveillant ce matin, là, les Penguins qui sont pas si loin que ça, 28 points en 30 matchs, on est à 2 points des Flyers de Philadelphie d'une place en séries éliminatoires. Tu sais, moi, je les avais enterrés il y a à peu près 3 semaines, les Penguins. Là. On se replace un peu, mais je les vois quand même pas. Tu sais, il y a tellement de parité là, présentement dans l'Est. Là. Je pense que quand même, ça va être en un autre printemps court là, pour les Penguins, de la manière que ça se décide. Si au moins on peut être plus constant, les gros canons, on verra ça jeudi. Ouais. Parlons-en de l'Avalanche, justement, qui était du côté de Pittsburgh hier. C'est quand la dernière fois, Hugues, que tu as vu des aspirants à la Coupe Stanley, ce que l'Avalanche était en début de saison, on s'entend, échanger leurs deux gardiens? Pas un club de fond, tu sais, qui change leurs deux gardiens, là, les Nordiques dans les années fin 80, là, quand on utilisait 8 gardiens par année. Là, je te parle d'un club de tête qui échange ses deux gardiens en l'espace de 2 semaines. On a envoyé Alexander Georgiev du côté de San Jose en retour de Mackenzie Blackwood, un gardien que tout le monde avait abandonné, Mackenzie Blackwood, on s'entend. On a donné un choix de 2e ronde, un choix conditionnel de 5e ronde en 2025. On était chercher un 7e choix là, du côté de l'Avalanche. Puis ça, c'est une semaine et demie après avoir échangé ce qui était notre meilleur espoir devant le filet, Justus Anunin aux Predators de Nashville, en retour de Scott Wedgwood, un gardien que personne n'a sur son radar depuis plusieurs années. Quoi. Wedgwood est rendu à combien d'équipes, tu sais-tu?
Oh boy, Wedgwood.
Sors-moi ça, écoute.
C'est un bon journeyman. Il a joué avec les Stars, il a joué avec les Devils, les Coyotes, les Prédateurs, et là, il est rendu avec l'Avalanche. Donc, okay, bon. En ordre, là, ça a été repêché par les Devils en 2010. Donc, il a joué en 2015-2016 avec les Devils, ensuite avec les Coyotes de l'Arizona, revenu avec les Devils, retourné avec les Coyotes. Les Stars, 3 saisons avec les Stars, les Prédateurs et maintenant l'Avalanche. Donc, ouais, le qualificatif de journeyman, lui va bien.
Vie dans ses valises. Tu sais, quand tu regardes ça, bon, t'es échangé ton meilleur espoir. Puis, je l'ai vu à Noonan dans le match à Montréal. Là. Je trouve qu'il s'est très bien débrouillé. Là, le problème, il est où? Il est devant le filet ou il est ailleurs?
Ben écoute, première question que tu m'as posée en amorce de ce segment sur l'Avalanche, c'était qui le dernier finaliste de la Coupe Stanley, prétendant à la Coupe Stanley,
ouais,
qui a échangé ses deux gardiens. J'ai pas de souvenir qui me vient en tête, bien honnêtement. J'ai le goût de te dire que ça doit jamais être arrivé. Faudrait fouiller là, année après année. L'exemple qui me vient en tête, par contre, c'est les Blues de Saint-Louis en 2018. Ils n'étaient pas prétendants, par exemple. Ils étaient derniers au classement.
Ils étaient derniers, c'est ça.
Mais tu sais, bon, ils ont commencé la saison avec Jake Allen et Chad Johnson. On salue ceux qui se souviennent de Chad Johnson.
Oui, c'est ça.
Et ils avaient terminé avec Jordan Binnington. Mais bon,
on avait
pas échangé nos deux gardiens, mais on avait fait un changement complet devant le filet. Mais non, c'est. Mais je pense que le problème de l'Avalanche, en espérant que ça soit réglé, ça va vraiment être devant le filet parce qu'offensivement, on a les munitions. Tu sais, je veux dire, on le sait, là, on vient de parler des 5 points de McKinnon et de Rantanen. On a retrouvé beaucoup de profondeur dans les dernières semaines avec le retour au jeu de Valérie Nichushkin, avec Lekkonen qui avait raté le début de la saison, Ross Colton qui vient de revenir au jeu également.
C'est 3 gars qui sont bons défensivement. C'est ça qui me surprend dans les varlopes que l'Avalanche mange. Là.
Oui, mais c'est que sur tes 2 derniers trios, t'as des gars comme Giovanni Smith, des gars comme Parker Kelly, des gars comme Ivan qui ont pas beaucoup d'expérience. Donc ça, c'est sûr que à la longue, ça finit par te coûter des matchs, ça te coûte des buts. T'sais. On est loin du bottom six du Lightning de Tampa Bay quand ils ont gagné leur première Coupe Stanley. Donc c'est ça. Je pense que ça va quand même rester le tendon d'Achille de l'Avalanche, les gardiens. Puis tu sais, je regarde, ils ont gagné mardi dernier contre les Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo menaient ce match-là 4-0. T'sais, ils se sont fait scorer 4 buts en partant. Ils ont réussi à remonter parce qu'ils ont l'attaque. Après ça, ils ont perdu 5-3 contre les Hurricanes de la Caroline. Donc, tu sais, ils ont l'attaque. On le sait qu'ils ont l'attaque pour marquer des buts, mais moi, je pense que devant le filet, ça va quand même rester le tendon d'Achille. À voir, peut-être que Blackwood va être capable de livrer la marchandise.
Blackwood était prometteur quand il était avec les Devils. Puis à un moment donné, ça a cassé. Mais je veux dire, les Devils, tout a cassé à ce moment-là. Là.
Mais Blackwood a-t-il déjà défendu le filet d'une bonne équipe? Quand il était avec les Devils, généralement, c'était les Devils qui étaient en reconstruction. À moins que je me trompe, là, il n'a pas vraiment connu les belles années des Devils.
C'est parce que les bonnes années des Devils...
À part la saison record... Là, avec
le Taylor Hall, là, c'est ça?
Oui, c'est ça. Celle avant de rater les séries éliminatoires l'an dernier, là, qui ont battu toutes leurs... qui ont battu tout leur record de victoires et de points là, dans une saison. Pas la saison dernière qui ont raté les séries, là, l'autre
d'avant.
Oui,
celle
donc,
d'avant, oui, je te suis.
2022-2023, je pense que Blackwood était là. Mais après ça, tu t'en vas avec les Sharks de San Jose. C'est pas une situation évidente pour un gardien de but. Donc, c'est ça. Il n'a jamais été derrière de très bonnes équipes. Peut-être, s'il y a une chance de relancer sa carrière, je pense que c'est avec l'Avalanche.
C'est pas un mauvais pari, mais c'est parce que ça fait pas mal de paris pour l'Avalanche. Puis là, on commence à manquer. Tu sais, t'es échangé ton meilleur espoir. Parce que je l'ai pas nommé. Il y a Kovalenko aussi qui est dans cette transaction-là du côté de... C'est parce que Kovalenko, c'est ton espoir qui est le plus près de la Ligue nationale. Il jouait dans la Ligue nationale cette année, mais c'était le plus NHL-ready. T'as échangé ton meilleur espoir de Valfilet. Je sais que la fenêtre de l'Avalanche est ouverte présentement, mais... Faut que ça débloque. Mackenzie Blackwood, c'est nouveau peut-être sauveur du côté de l'Avalanche. Alexander Georgiev, on salue tout le monde qui l'avait pris dans leur pool en début de saison en se disant même si statistiquement c'est difficile, il va me donner des victoires. Ça risque d'être pas mal plus difficile du côté des Sharks. Mais lui, il doit se relancer parce qu'il y a Yaroslav Askarov qui est dans la Ligue américaine, qui brûle la Ligue américaine présentement. Lui, à un moment donné, il va falloir le rappeler pour de bon. Là. Donc, la fenêtre pour Georgiev pour se relancer aussi, elle est courte. Je ne sais pas, ça ressemble à quoi son contrat, là, mais...
Georgiev, il est joueur autonome à la fin de la saison. Tu réponds à la question.
Il a 3 mois pour se relancer environ, Georgiev.
Oui, puis je ne sais pas à quel point... je ne suis pas dans la tête du DG Mike Greer, mais on a Askarov. Je pense que Georgiev était le prix à payer pour... Je pense que la pièce qu'on voulait aller chercher, c'était Kovalenko. Et je pense que Georgiev était peut-être le tu veux faire sortir un gardien, il faut que tu en rentres un autre généralement pour que ça fonctionne.
De toute façon, on a tellement confiance, j'imagine, en Askarov au prix qu'on on a payé quand même un bon prix pour aller chercher.
C'est le gardien d'avenir.
C'est le gardien d'avenir. Fallait que tu sortes quelqu'un.
C'est donc, ça, Black, exact.
Blackwood, ça top tier. Tu sais, soit Blackwood ou soit. C'est qui leur deuxième, j'ai un blanc. Vitek Vanecek. Écoute, des gars des Devils, hein? Blackwood et, ouais. et Vanecek qui ont passé par Newark. Ouais. Mais fallait que tu en sortes au minimum un. Normalement, ça aurait été à la fin de l'année, joueur autonome ou peu importe. Là, tu obtiens un prix pour. Ben, écoute, saute sur l'offre. On peut comprendre Mike Greer d'avoir décidé d'aller de l'avant avec cette transaction-là.
Pour conclure avec Colorado, je vois ça un peu comme les gardiens du Canada à la confrontation des quatre nations. Pas besoin d'un gardien qui va te voler des matchs. J'ai besoin d'un gardien qui ne te fera pas perdre. Est-ce que Black. Georgiev faisait perdre l'Avalanche. Anunen, à certains moments, c'est arrivé aussi. Là, il faut voir si Blackwood peut simplement tenir le fort pendant que les gros canons marquent. Ça va être la recette du succès pour le Colorado parce que je pense pas qu'il va arriver là en sauveur, non, Blackwood.
Non, exactement. Mais bon, gars, l'Avalanche, 4 victoires à leurs 5 derniers matchs. C'était tous des matchs sur la route. Là, on revient à la maison. Ça aussi, ça va peut-être être le tournant. Là, puis ben, finalement, ils vont être capables de terminer la saison en force puis entrer en séries éliminatoires, pas par la porte d'en arrière, un peu comme l'année dernière. On n'avait pas l'avantage de la glace, souviens-toi, mais on avait battu les Jets de Winnipeg. Yep. Hugues, gros merci d'avoir été sur le balado aujourd'hui. Je te laisse partir. Tout simplement, yes. Je te laisse quitter. De toute façon, comme je disais à JF tantôt, on va se revoir un petit peu plus tard ce soir pour un bon petit thé. Un thé à la santé de tout le monde du côté du bureau de la LNH à Montréal. On va profiter. On va profiter.
Hein? Petite boisson à base de houblon, peut-être, là, à voir.
Oh, dans l'abus. Dans l'abus.
en restant raisonnable.
Ben oui, bien évidemment, bien évidemment. Un gros merci encore, Hugues, d'avoir été là.
Ça fait bien plaisir, Nick. On se reprend très bientôt.
Yes, à la prochaine. On poursuit l'émission. On le rejoint en direct d'Ottawa. Il est à la couverture du début du camp d'entraînement d'équipe Canada Junior. Guillaume Lepage, salut Guillaume.
Salut Nick.
Comment tu vas?
Ça va très bien, très bien.
Là, tu vas m'expliquer pourquoi on commence un camp d'entraînement le soir plutôt que le matin.
C'est toujours le processus qu'on choisit du côté de Hockey Canada, mais hier, on s'est fait jouer un vilain tour parce que il y a un épais brouillard. D'ailleurs, ce matin encore, c'est encore très présent. Donc, les avions ne pouvaient pas atterrir. Je pense que l'aéroport a été fermé pendant quelques heures. Là, donc, plusieurs retards. Hier soir, il y avait seulement 14 des 33 joueurs invités au camp de sélection qui étaient présents. Donc, ça a été une pratique assez légère, mais on espère que tout le monde soit là ce matin. On reprend ça autour de 10h30. Donc, on va voir si tous les joueurs vont être arrivés à Ottawa.
Écoute, Guillaume, on se lance dans le vif du sujet. On va parler du camp là, aujourd'hui parce que la semaine prochaine, tu vas être avec nous. On va parler vraiment du tournoi. On va avoir la formation finale. On va regarder les autres formations, tout ça. Mais plus les enjeux du camp. La question, c'est après la 5e position de l'année dernière, quand on a été éliminé par la Tchéquie en quart de finale. Est-ce qu'on a appris de nos erreurs du côté d'équipe Canada? En ce sens que je pense que l'équipe qu'on a utilisée l'année dernière était peut-être pas assez à la sauce canadienne qui a fait les succès de l'équipe depuis 1977-18, là, je me souviens plus. Là.
Bon, on verra avec les résultats du tournoi, évidemment, mais là, ce qu'on a compris hier, on a parlé avec le vice-président des opérations hockey, Scott Salmon, qui disait « On veut une véritable équipe canadienne, on veut jouer à la manière canadienne. » Donc là, quand on dit ça, bon, c'est un peu une formule pour dire on va jouer de façon physique, de façon intense pendant tous les matchs. L'année dernière, pour vrai, ça n'a pas été quelque chose qu'on a vu constamment. Là. Ça a été vraiment par certaines séquences, là, mais on n'a jamais été capable de trouver notre rythme vraiment là, dans ce jeu.
Ce qui est toujours surprenant dans un tournoi aussi court et avec un enjeu aussi important et avec une feuille d'érable sur le, sur la poitrine, là, c'est à ce moment-là, ça n'a pas le choix à ce moment-là d'être un constat d'échec pour l'équipe Canada.
Oui, c'est ça. Puis regarde, cette année, l'année dernière, on n'avait pas participé au défi estival. Cette année, on l'a fait. On a embauché un Scott Walker qui est un peu un entraîneur au développement qui a fait le tour des 7 joueurs qui sont de retour depuis le début de la saison. Les a rencontrés pour vraiment fixer les attentes puis mettre ça au clair avant que les joueurs se présentent au camp de sélection. Donc, on a l'impression au moins que le travail en amont est peut-être mieux fait cette année que l'année dernière. Maintenant, pour le résultat sur la patinoire, il faudra voir. Mais Scott Sandman disait vraiment, je pense que c'est les mots-clés. Dave Cameron, l'entraîneur, les a répétés. Tous les joueurs les ont répétés. On veut avoir un esprit de compétition. On veut une équipe compétitive cette année. Donc, on veut des joueurs rapides, des joueurs talentueux, puis des gars compétitifs. Ça a été vraiment le mot d'ordre, les trois mots-clés qui sont revenus dans chaque entrevue qu'on a faite. Donc, c'est ça l'objectif pour cette année.
Corrige-moi, mais 7 joueurs qui pourraient être de retour, c'est gros par rapport aux dernières éditions, là?
Ouais, c'est ça. L'édition de l'année dernière était quand même assez jeune. Mm-hmm. Tu sais, c'est peut-être une des raisons qui peut expliquer le fait que l'équipe a terminé au cinquième rang. Mais là, on peut profiter cette année de cette expérience-là. Mais Dave Cameron, encore une fois, on a vraiment l'impression qu'on veut faire la séparation avec l'année dernière parce qu'il a dit les 7 gars qui sont de retour doivent gagner leur poste avec l'équipe. Des fois, on le répète, on sent que c'est un peu une formule, mais cette année, il y a beaucoup de compétition à ce camp-là. Puis ça se pourrait que des joueurs qui étaient là l'an dernier ne soient pas de retour parce que honnêtement, il n'y a pas vraiment de gros arguments pour dire que certains joueurs doivent absolument être de retour. Là, ça va être des postes, tous les postes sont à gagner cette année.
Exactement. Puis d'ailleurs, là, on vient d'inviter Beckett Seneke, Zane Parrick aussi, qui avait été à la base laissé de côté. Donc, 33 joueurs au camp d'entraînement. Easton Cowan des Maple Leafs de Toronto qui va être là, mais qui patinera pas, là, probablement. Mm-hmm. Bon, été blessé dans un match des Knights de London la semaine dernière. Mais c'est rare que chez l'équipe Canada, on mise sur la jeunesse. Mais ça se pourrait cette année avec quelques candidats. Je viens d'en nommer deux en Seneke et Parrick. Mais surtout avec Gavin McKenna. McKenna, c'est le premier choix, du moins à l'avis de plusieurs, pas cette année, l'année prochaine. Donc, il y a 17 ans, mais c'est comme si on l'invitait à 16 ans. Là. C'est quand on regarde ça dans le passé, là, des joueurs qui ont été invités à leur...
Ouais. Par rapport, si on compare à Connor Bedard, à son année de 17 ans, donc son année, l'année qui précédait son repêchage, l'année où il a brisé tous les records et tout ça, McKenna va seulement va avoir 5 mois de moins que Bédard à ce moment-là. Donc, il est quand même plus près de ce que Bédard était. Donc, on le considère quand même comme son année de 17 ans parce que sa date de naissance va être... il va fêter son 17e anniversaire le 20 décembre. Donc, quand le tournoi va s'amorcer, il va avoir 17 ans. C'est ça. C'est un fameux late. Donc, on peut quand même comparer là, avec la dernière année de Connor Bedard. C'est pas comme si McKenna arrivait là à 16 ans. On le considère vraiment comme un 17 ans au sein de cette équipe-là. Donc, je pense que sans dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il fracasse tous les records comme Connor Bedard le fait avec ses 23 points là, en 2022, les attentes sont quand même élevées à l'égard de McKenna qui a 60 points en seulement 30 matchs dans la Ligue de l'Ouest.
C'est ça, parle-moi un peu de McKenna. Là, il domine dans la Ligue de l'Ouest cette année. Ça sera pas drôle l'année prochaine. Je veux dire, déjà là... souviens-toi, je lance ça comme ça, mais Austin Matthews, tu te souviens qu'il est allé jouer une année chez les pros en Suisse? Mm-hmm. Je sais pas si ça peut être sur son radar,
ben,
peu importe. Là, mais...
tu sais, il y a le fameux changement de règlement, Nick. Je pense que c'est un dossier très chaud. Gavin McKenna...
Toi, t'es arrivé puis tu lâches cette petite bombe-là un matin comme ça sur la possibilité...
Non, mais
honnêtement,
ça circule beaucoup parce que les Tigers de Medicine Hat, où évolue McKenna, voulait recevoir le tournoi de la Coupe Memorial l'an prochain. Puis on a échappé cette possibilité-là. Ça va être à Kelowna. Donc, pour McKenna, c'est quand même un coup dur parce que on n'a pas... Tu sais, je veux dire, pour lui, l'avantage de rester dans la Ligue canadienne l'an prochain, ça aurait été de participer à la Coupe Memorial, de jouer, d'avoir la certitude de participer à la Coupe Memorial, de jouer sur une grande scène comme ça. Mais là, on ne peut pas lui garantir ça. C'est un gars qui a récolté 97 points à sa première saison complète dans la Ligue de l'Ouest. Cette année, il est à 60 en 30 matchs. Donc, pour lui, s'il y a une option qui s'ouvre dans la NCAA, dans un niveau différent contre des joueurs plus âgés, ben peut-être que ça devient attrayant pour lui. Donc ça va être un dossier à suivre. C'est pas avancé là-dessus, évidemment, hier, hein, mais honnêtement, c'est un candidat de choix Ça pourrait être un gros nom qui change de ligue. Là. Ça serait le premier gros dossier là, qui ferait couler beaucoup d'encre suite à cette décision-là là, entre la NCAA et puis la Ligue canadienne. Non.
Un tout nouveau monde, là, vraiment, là, mm-hmm. dans ce cas-ci. Ouais. Question annuelle, représentation québécoise. On ne s'attend jamais à briser des records, mais ça se pourrait qu'on égale un record peu enviable là, cette année. Là.
Oui, exactement. Il y a seulement deux joueurs québécois au camp de sélection, Mathieu Catafor et Ethan Gauthier, qui n'étaient d'ailleurs pas arrivés hier soir. On a décidé de les faire voler de Montréal, mais il aurait peut-être dû conduire comme je l'ai fait. Ça aurait probablement été plus efficace.
Guillaume, tu aurais pu faire le lift là, avec ta communauté.
Oui, mais c'est ça. Mais on en parlait avec... on est 3-4 journalistes québécois qui ont fait la route hier. Fait qu'on aurait pu, faire le taxi pour ces deux joueurs-là, mais... c'est Mathieu Catafor et Ethan Gauthier. Deux gars qui vont se battre, j'ai l'impression, pour un peu le même poste parce que ce sont deux gars polyvalents. C'est évidemment pas des joueurs sur lesquels on va compter pour animer l'attaque. Là. Ce sera pas un poste sur le top 6, mais c'est des gars qui sont fiables défensivement, qui amènent un petit élément de papier sablé, de hargne dans leur jeu. Donc, je dis, ils vont se battre pour le même poste. Ça se pourrait que les deux fassent l'équipe, mais si j'avais à parier, j'irais pour un des deux. Probablement, mon choix, ce serait Ethan Gauthier parce que il a gagné la trophée Gilles Courteau l'an dernier sous les ordres de Sylvain Favreau, qui est adjoint avec l'équipe. Mais Catafor a aussi évolué sous les ordres de Favreau à Halifax là, pendant ses deux premières saisons. Donc, ce sont deux joueurs qui sont bien connus par Favreau, par le personnel d'entraîneur. Donc, j'ai hâte de voir, mais ça, j'ai l'impression que ça serait bien d'en avoir deux, mais ce sont deux joueurs quand même. Non, c'est deux joueurs quand même similaires. Donc, j'ai l'impression que on va peut-être avoir à faire un choix entre les deux.
Oui, exactement. Un francophone qui a décroché déjà son poste, c'est plutôt rare qu'on dit ça. Bradley Nadeau, des Hurricanes de Caroline, qui évolue dans la Ligue américaine Chicago, hein, si je ne me trompe pas, avec les Wolves. Nadeau, c'est ça. Déjà, on lui a confirmé son poste. C'est sûr que quand tu as un joueur qui décide de la Ligue américaine pour venir à ton camp, c'est rarement pour se faire retourner de bord. Mais on n'a pas perdu de temps là, du côté du natif de Saint-François de Madawaska au Nouveau-Brunswick.
Oui, exactement. Exactement. Nadeau va rejoindre l'équipe le 15 décembre, donc ce sera deux jours après la fin du camp de sélection. Donc, quand Scott Salmon a annoncé la nouvelle hier, on a comme compris son lien entre les lignes qu'il allait faire partie de la formation. Dave Cameron a dit que c'est un joueur très, très talentueux, puis que l'équipe s'attendait à ce qu'il occupe un rôle clé là, dans cette équipe-là, dans cette attaque-là. Connu une excellente saison l'an dernier dans la NCAA. Cette année, je pense que c'est 20 points depuis le début de la saison.
12 en 20.
Donc, c'est quand même, pour une première saison professionnelle dans la Ligue américaine, c'est quand même très respectable.
À 19 ans.
Exactement. Donc, pour lui, ce sera une belle expérience. Puis pour nous, d'avoir un francophone de plus, on s'en plaindra pas parce que ça courra pas les rues à Ottawa dans le temps des fêtes.
En terminant, Guillaume, un dossier toujours chaque année, c'est les gardiens de but. On dirait qu'il n'y a jamais rien d'assuré. Il y en a un qui est de retour parmi les 7 joueurs, Scott Ratzlaff, mais est-ce que c'est son poste à perdre ou il y en a d'autres candidats, puis Ratzlaff, écoute, va peut-être regarder ça de chez lui durant le temps des fêtes?
J'ai l'impression que peut-être qu'il part avec une longueur d'avance parce qu'il a vécu l'expérience, mais il était troisième gardien l'an dernier avec la formation canadienne. Il était même pas au bout du banc, il a pratiqué avec l'équipe, mais ça a pas mal été tout ce qu'il a fait. C'est lui qui connaît la saison la plus difficile. Disons que c'est les Thunderbirds de Seattle connaissent des difficultés, donc c'est pas facile pour un gardien qui évolue derrière une équipe en reconstruction. Puis j'ai l'impression, tu sais, un Carson Bjarnason, c'est Bjarnason, c'est difficile à prononcer,
tu vas t'habituer s'il fait l'équipe.
Ouais, j'espère que je vais m'habituer parce que j'ai l'impression que lui et Carter George sont les deux gardiens qui sont les favoris en ce moment. Mais c'est ça, si la direction décide d'y aller avec l'expérience, puis parce que on parle d'un tournoi qui aura lieu à Ottawa, en scène canadien, la pression va être élevée, tout ça. Donc, c'est pas mauvais non plus d'avoir l'expérience, d'avoir un gars qui l'a vécu, qui sait un peu à quoi s'attendre, un peu plus à quoi s'attendre que les autres. Mais j'ai l'impression que Ratzlaff est pas nécessairement étiqueté comme un des deux gardiens. Là, en tout cas, au moment où on se parle, là, hier, il est arrivé, il a participé à l'entraînement, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans les deux matchs contre les Étoiles universitaires, parce que c'est ça qui va déterminer au final là, ce qui va se produire au final vendredi, quand va venir le temps de prendre les décisions.
Guillaume, on va pouvoir lire tous tes résumés de tout ça, tous tes textes sur le site de NH Pro. D'ailleurs, tu as déjà un texte ce matin avec McKenna. Il y en a d'autres déjà, tu es déjà au travail. Donc, je te laisse te rendre au... c'est où la pratique?
Au TD Place. Au TD Place. À Ottawa, donc, ça va être le deuxième aréna. Bon, le Canada va jouer les matchs au Centre Canadian Tire, le domicile des Sénateurs d'Ottawa. Et le deuxième groupe va jouer au TD Place, le domicile des 67 d'Ottawa dans la Ligue de l'Ontario. Donc, belle aréna junior, pour vrai, ça risque d'être une belle ambiance là-bas.
Assurément, l'aréna le plus construit, le plus bizarrement, par contre, qui, je pense qu'il existe dans le hockey junior canadien. Là, mais
souvenez-vous, ça, c'est particulier.
Ceux qui n'ont jamais vu, les Sénateurs d'Ottawa ont commencé leur existence de ce côté-là. Donc, tu as à peu près 5000 sièges d'un côté, 3000, 2000 de l'autre. Là, donc... ça va être différent, mais le reste, ça va être du côté de la grosse bâtisse des Sénateurs. Guillaume, merci d'avoir été là ce matin. On se reparle la semaine prochaine pour vraiment notre aperçu complet du tournoi, toutes les équipes, tout ça. On va faire ça avec toi et avec Jonathan Fignon qui va nous joindre à nous pour parler de l'équipe suisse, entre autres, puis comment il voit ça de l'autre côté de l'océan.
Parfait.
Un gros merci, Guillaume.
À la semaine prochaine. Salut.
Et voilà, c'est ainsi que se conclut ce nouvel épisode du balado de LNH.com. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Si vous voulez lire les textes de mes trois collègues qui étaient avec moi, ben LNH.com, tout ça est disponible. Sinon, ben suivez-nous sur les réseaux sociaux. LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur X, sur Instagram, sur Threads et LNH-FR sur Blue Sky. Merci à Jean-François Chaumont et Hugues Marcel qui était là plus tôt dans l'émission. Merci à Guillaume Lepage aussi, avec qui on vient tout juste de raccrocher. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt!